Marceau, le matin.
I said, are you gonna be my girl?
7:37, on est le 16 février. Vous passez une belle Saint-Valentin? Oui, non? 418-971-1021, 418-971-1021. Jeff, ça a-tu bien été?
Oui, ça a super bien été. Écoute, samedi au Pantathlon des Neiges et je coach au hockey après.
Tu fais l'amour après?
Oui.
À Saint-Valentin, t'as pas le choix. Max!
Pas le choix.
Moi, j'ai chanté des chansons d'amour au karaoké. J'ai chanté All of Me. J'ai chanté Perfect. Il y a un gars qui est venu me voir après une de mes performances. Il m'a dit, hey man, solide performance. Mais pour vrai, who hurts you? Il m'a demandé qui m'avait. J'ai répondu.
Les femmes!
J'ai répondu, they all did. Ils m'ont toutes blessé.
Les femmes t'ont toutes blessé.
Ah, tabarouette. Pauvre Max, pauvre Max. Est-ce que tu t'es fait l'amour pour la Saint-Valentin?
Non, même pas.
Même pas.
Non, je suis revenu chez nous, je suis tombé comme une mouche.
Tu l'aurais mérité un peu. Hey, c'est moins 11 degrés sur Québec, moins 16 avec le refroidissement éolien. Alternance de soleil et nuages pour aujourd'hui avec un max de zéro.
À la circulation, je te dirais qu'on est entré dans l'heure de pointe. Capitale-Ouest au rouge entre Beau-Royal et Laurentienne. Capitale-Est à l'approche de Pierre-Bertrand, il y a un petit ralentissement qui se fait sentir aussi. Robert-Brasse-Sud vers le boulevard Le Bourgneuf au ralenti. R4-Sud entre Sainte-Geneviève et Chauveau-Ouest, c'est au rouge également. Plus haut, dans l'autre direction, quand tu t'en vas vers Shannon, il y a un petit ralentissement habituel qui se fait sentir aussi. Secteur des ponts pour l'accès aux pompières. La porte, ralentissement à prévoir, mais vraiment rien de catastrophique.
C'était une grosse fin de semaine dans l'actualité. C'est un gros lundi aussi dans l'actualité. Puis on aime bien commencer la semaine avec notre ami Victor Henriquez, qui est chroniqueur politique. Salut Victor!
Salut les gars, comment ça va?
Ça va très bien. Charles Milliard, qui est officiellement chef du Parti libéral du Québec, a un discours de presque 40 minutes hier. Il en avait long à dire. Comment trouves-tu son départ jusqu'à maintenant et les choses qu'il a amenées et qu'il veut mettre de l'avant? Est-ce que tu les trouves correctes?
Les libéraux ont fait les choses dans le grand hier. Hein. Il y avait plus de 600 personnes à Trois-Rivières qui s'étaient déplacées pour souhaiter la bienvenue à Charles Milliard. Philippe Couillard était là, Daniel Johnson également. Deux anciens premiers ministres, M. Charest également à distance. Alors, on a tenté justement de créer un buzz, parce que là, l'enjeu, ça reste que c'est un chef qui est couronné. Hein. Et quand les chefs arrivent couronnés, il y a un peu moins de buzz autour de leur arrivée, donc on a tenté de créer ça de leur côté. Moi, je trouve intéressant le positionnement de Charles Milliard, qui hier a quand même essayé de nous présenter un peu sa grande plateforme. Mais juste un conseil que je donnerais à tous les politiques cette année. On va avoir une année électorale avec beaucoup de discours. Évitez-nous les longs discours fleuves avec 8 sujets dans le discours. Ça marche pas. Les gens ont besoin de discours simples. Notre attention est prise par une tonne de choses. On le sait, on le vit tous. Il faut ramener les choses simples. Il faut ramener les choses à des messages très simples aussi. Et je trouve qu'il y a le discours de 40 minutes, même moi qui l'écoutais avec un intérêt, à un moment donné, je me suis perdu dans tout ça.
Ouais.
Ce qui est intéressant, par exemple, c'est ce qu'il amène. Puis il y a un certain vent de fraîcheur qui vient avec le fait aussi qu'il l'a réitéré. Il veut amener de l'intégrité au Parti libéral. Et je dirais que c'est pas une mauvaise idée à ce moment-ci.
C'était un très long discours. Et visiblement, c'est un intellectuel. Il va avoir beaucoup de travail à faire pour ce qui est des communications. Ce qu'il a mentionné, c'est que, tu sais, on trouve ça intéressant, là, le fait qu'il soit chef du Parti libéral du Québec. C'est un chef qui est non élu. Il a tassé un peu Monsef de Ragy. Il s'est pas prononcé sur Marois Risky. Il a pas nécessairement parlé des enquêtes, là, à moins que je me trompe dans son discours. Il a parlé un petit peu de sa plateforme, comme quoi il voulait être le parti de l'économie. J'ai pas l'impression que j'ai vu quelque chose de nouveau, moi, dans les discours des chefs de parti.
Ben, c'est exactement ça. Moi, c'est ça qui me manquait. J'aurais aimé que Charles Milliard se présente aux Québécois en disant « Voici qui je suis et voici ce que j'amène de différent à la politique québécoise. » C'est ce que je m'attends à entendre de sa part. C'est ce que je me serais attendu hier dans le discours. Et ce que ça m'a dit hier, c'est « OK, ça, c'est un discours pour les militants. » C'est vrai que le dimanche, là, monsieur et madame tout le monde ne sont pas nécessairement attentifs à ce qui se passe dans l'actualité politique pour un discours à 4 heures de l'après-midi, rappelons-le. Là. Sauf que ça reste une opportunité d'être en direct devant tout le monde. Donc, c'est là où est-ce que j'ai l'impression que j'ai eu, moi, c'est que c'était un discours pour les militants, des gens qui le connaissent un peu plus. Beaucoup de gens, d'ailleurs, qui l'avaient appuyé lors de la première course qu'il avait fait, étaient présents dans la salle. Donc là, on cherchait à parler à son monde. Ce que je m'attends dans les prochains jours, ce que vous allez entendre certainement, parce qu'il va aller à Québec cette semaine, il sera à l'Assemblée nationale, il va aller voir son caucus, c'est vraiment d'ouvrir son discours vers la population en général et de commencer tout de suite ce travail de notoriété. Ce que Charles Milliard doit construire, c'est de la notoriété. La réalité, c'est qu'en ce moment, c'est le chef de parti le moins connu de la part des Québécois. Bonne nouvelle, c'est qu'il peut se définir lui-même. Mauvaise nouvelle, c'est que ça prend du temps à se faire connaître auprès de la population.
Est-ce qu'il va devoir être agressif dans ses commentaires sur l'actualité, sur les politiques? Parce qu'on a eu un Éric Duhaime qui a utilisé cette technique-là, là, et qui était agressif sur à peu près n'importe quel sujet, puis ça a fait en sorte qu'il est devenu l'un des politiciens les plus détestés de la part des Québécois. Je pense pas que ce soit mérité, très honnêtement, pour le connaître. Là. C'est vraiment un bon gars, Éric Duhaime. Mais dans le cas de Charles Milliard, ça va être quoi son travail? Il n'y aura pas le choix. S'il veut se faire connaître, il faut qu'il passe à la télé le plus souvent possible, il faut qu'il passe à la radio le plus souvent possible, il faut qu'il soit sur les réseaux sociaux le plus souvent possible. Il va devoir être agressif, là.
Il va devoir être agressif, mais il va devoir faire attention à ne pas écœurer les gens non plus. Alors, c'est là où est-ce qu'il y a un équilibre à trouver en termes de notre développement de la notoriété. Moi, il y a deux choses là-dedans qui me frappent. D'ailleurs, hier, un élément intéressant, c'est que dans le point de presse qui a suivi, il a eu une question sur la question de son orientation sexuelle. À savoir, il s'est fait poser la question, est-ce que les Québécois étaient prêts à élire un homme ouvertement homosexuel? Et j'ai beaucoup aimé sa réponse. Il a dit, moi, je vais me présenter dans tout ce que je suis de façon très honnête et ce sera aux Québécois de juger, mais je ne pense pas que ce soit un enjeu. Et ça, c'est quelque chose qui va aujourd'hui se retenir parce que ça reste que c'est un élément sur lequel sa réponse était très directe. Et si on voit là un style Charles Millard, ce sera extrêmement intéressant à suivre. Parce que tu parlais d'Éric Duhaime. Éric Duhaime a été un peu dans un contexte particulier, hein, où est-ce qu'avec la pandémie, il y avait une polarisation naturelle qui se faisait. Moi, je prends aussi un exemple, Paul Saint-Pierre-Plamondon, qui, rappelons-le, dans ses premières mois, les premières semaines à l'Assemblée nationale, a été très rapide à tout le temps amener des sujets qui intéressaient les Québécois. Puis je pense notamment à la question du débat sur les écrans, le temps d'écran des enfants. Le temps d'écran des enfants, c'est un truc dont tout le monde parlait, mais on n'en parlait pas à l'Assemblée. Lui a amené ça à l'Assemblée. Est-ce que Charles Millard va pouvoir utiliser ça également? Moi, je pense qu'il y a une autoroute sur le volet économique que Charles Millard doit utiliser. La CAQ, en ce moment, est en course à lâcher prise, puis ils sont en train de se chicaner entre eux, ils sont occupés à se chicaner entre eux. Lui, il y a une autoroute devant lui pour venir parler d'économie. Si j'étais au Parti libéral, je leur dirais, OK, gang, c'est le temps de prendre le terrain et donc d'amener votre chef à parler d'économie, à faire des propositions concrètes. Il a parlé d'économie, mais à part nous dire qu'il allait parler d'économie, j'ai entendu le mot décentralisation. Ça, c'est le mot qui m'a frappé. Je trouve que c'est intéressant à développer, mais il faudra voir aussi. Il y en a beaucoup qui nous ont promis de décentraliser. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Alors ça, c'est un élément. Il y a plein de choses comme ça qu'il faudra préciser qui ne le sont pas encore à mes yeux.
Il veut se rapprocher des régions. Ça, je pense que c'est le plus gros affaire pour lui parce que le Parti libéral du Québec, ça a longtemps été Montréal, là. Ça a longtemps été les immigrants. Là, s'il veut rapprocher les régions, il n'aura pas le choix d'aller le plus souvent possible au Saguenay, le plus souvent possible être à Québec, le plus souvent possible être en Gaspésie, se promener un peu partout à travers le Québec. Il n'aura pas le choix de le faire.
Tu as entièrement raison. Et ça, hier, dans son discours, ça a bien ressorti.
Exact.
Attention, par exemple, il a mis un peu en opposition en disant « Québec-Montréal, oui, je suis là pour vous, mais je vais surtout être là pour les régions du Québec. » Moi, je suis toujours prudent avec cette question d'opposition de Québec-Montréal versus les régions. Je pense qu'au contraire, il faut amener tout le monde à travailler ensemble. Mais il y a une chose qui est claire. La priorité de Charles Millard, ce n'est pas de conquérir Montréal. Montréal, c'est fait pour les libéraux. Là, c'est une question mathématique. Québec, ce serait intéressant parce qu'à Québec, il y a de la mouvance. Puis moi, je pense que les conservateurs ont beaucoup d'espace de gain à Québec, justement, parce que leur discours est clair. Et en région, tout le monde va se battre pour ça. Donc, c'est intéressant, mais moi, j'en voulais peut-être un peu plus hier. Je m'attends à plus dans les prochains jours. Je m'attends surtout à plus de précision parce que, comme tu le disais, ça va prendre nécessairement quelqu'un qui va être capable de puncher pour ressortir dans l'actualité et qu'on le connaisse rapidement et qu'on le définisse rapidement de la bonne façon aussi pour lui.
Victor, comment faire pour augmenter le vote chez les francophones du côté du Parti libéral du Québec?
Il faut changer les priorités, il faut revenir à des essentiels. Moi, je pense qu'il y a un élément qui a fait très mal aux libéraux dans les dernières années, ça a été d'avoir une espèce de débat avec eux-mêmes sur la loi 21, sur la laïcité et sur la langue française. Quand on s'oppose à des lois, puis c'est tout à fait correct de s'opposer à des aspects de la loi. Hein. La loi 21 sur la laïcité, les libéraux s'opposent à l'utilisation de la clause de non-obstant, puis dans la loi 96, à certains éléments sur le français. Mais le problème, c'est que dans le terme de perception globale, on n'entend pas parler des détails, on entend parler du fait que les libéraux s'opposent à 21 puis à 96, ce sont probablement deux lois très importantes aux yeux des Québécois. Alors, je pense que les libéraux doivent prendre note de ça. Il y a comme un minimum syndical au Québec maintenant sur la laïcité. C'est la loi 21, c'est l'interdiction des signes religieux dans l'espace public. Ça, les Québécois ont adhéré à ça en majorité. Et la protection de la langue, ça va être extrêmement important qu'ils se positionnent là-dessus comme étant très forts sur cet élément-là. Sinon, ça les fait reculer parce que les Québécois, ils sont nationalistes. Ils veulent pas de référendum d'après ce que les sondages nous disent, mais ils sont nationalistes puis ils veulent un gouvernement qui parle du Québec comme d'une nation distincte. Ça, les libéraux vont devoir apprendre à le faire parce que je suis pas sûr qu'ils l'ont fait avec insistance dans les années où est-ce qu'on les a vus au pouvoir.
Il y a des enquêtes actuellement pour le Parti libéral du Québec qui s'en viennent. Bon, on a vu le rapport du juge Fournier là, qui était un peu particulier. Là. Il a conclu un montage parce que il était pas capable de prouver que ça en était pas un. C'est assez weird. Mais l'enquête de l'UPAC qui s'en vient, l'autre enquête aussi qui s'en vient, il va devoir faire face à ces quatre enquêtes-là totales. Est-ce que le fait qu'il vient de l'extérieur, ça va l'aider?
C'est sa plus belle carte. Ça, je l'ai dit souvent lorsqu'est arrivée cette course à chefferie un peu inattendue. Charles Millard a été battu par Pablo Rodriguez parce qu'il venait de l'extérieur et qu'il n'avait pas d'expérience politique. Charles Millard était le meilleur choix des libéraux en décembre 2025 parce qu'il venait de l'extérieur et qu'il n'avait pas d'expérience politique. Comme quoi, ton pire défaut peut devenir ta meilleure qualité. Et dans le cas de Charles Millard, ça va être de se faire un plan de match parce qu'il ne sera pas affecté par les enquêtes. Pourquoi? Parce qu'il ne contrôle pas la date à laquelle ces enquêtes vont ressortir. L'UPAC, ça peut prendre 2 ans. Comme ça peut sortir en août prochain, juste avant une élection, comme ça peut sortir 2 semaines avant la date du vote. Bon, ce serait un peu tricky, honnêtement, s'il sortait ça 2 semaines avant la date du vote. Là, on parlerait certainement d'intervention dans l'élection. Mais il y a des éléments sur lesquels il n'a pas le contrôle. Donc, lui, sa job, c'est de faire un plan de match où est-ce qu'il va prendre en considération les enquêtes et agir sur celles-ci lorsqu'elles viendront. Mais il ne peut pas se laisser influencer par ça. Et à ce moment-là, le fait de ne pas avoir été là, c'est sa meilleure carte.
Le rapport Galland sort à 11h30. Tu t'attends à quoi?
Alors, je m'attends à beaucoup de blâmes, puis je m'attends à des solutions. Et là-dessus, jusqu'à maintenant, on a entendu des blâmes. Il y a une chose qui est claire. Karl Malenfant, malgré sa conférence de presse la semaine dernière, qui a essayé de nous faire croire que, dans le fond, il n'y avait rien fait et que c'était la victime des victimes, va être sévèrement blâmée par ce rapport-là. Également, la ministre Guilbeault, qui sera blâmée pour une partie de son témoignage, et les anciens PDG. Je m'attends à ce que le commissaire Galland nous fasse des recommandations qui permettront au gouvernement de mieux gérer ces dossiers-là. Et j'ai bien hâte de voir avec quoi il va nous arriver parce qu'il avait participé à la commission Charbonneau qui, rappelons-le quand même, avait donné beaucoup de recommandations dont la majorité ont été suivies par le gouvernement et ça a amené des résultats. Donc, je pense qu'on pourrait sortir aujourd'hui de cette journée en se disant que ça a été un bon exercice pour le gouvernement de faire cette enquête publique et d'implanter rapidement des solutions. Maintenant, il y a une chose, par exemple, c'est que ça prendra un PDG à la SAAQ qui ait les mains libres pour agir. Serge Lamontagne a été nommé récemment. C'est un homme qui est reconnu pour être un très bon gestionnaire, à régler les situations. Hein. C'est lui qui a remis en pied la ville de Laval, la ville de Montréal. Alors, il aura un très grand défi. Espérons que le juge Galland lui donnera les outils pour réussir ce défi.
Geneviève Guilbeault va être visiblement blâmée. C'est ce qu'on avait appris il y a de ça quelques semaines. Est-ce qu'elle restera en place comme ministre?
Je pense que le blâme ne sera pas nécessairement assez fort pour la faire sortir tout de suite parce qu'il faut quand même se dire qu'il y a un nouveau chef qui va arriver à la coalition de Québec.
Mais Victor, mentir sous serment, ça, il n'y a plus de problème, mais c'est plus gênant mentir sous serment.
C'est là où j'ai hâte de lire le rapport parce que je me garde une certaine prudence, Yannick. Est-ce que le rapport va dire qu'elle a menti sous serment ou est-ce que le rapport va nous dire, par exemple, qu'une partie de son témoignage était trop nébuleux ou qu'elle semble avoir caché de l'information ou qu'elle n'a pas assez donné.
Ou elle a
oublié. Moi, je veux voir les détails du témoignage.
Parce que la mémoire, ouais, ça fait faire plein d'affaires, la mémoire. Là. Ça te fait sortir du trou.
C'est vrai. Et des fois, au gouvernement, il y a des choses aussi où est-ce que tu négliges certains aspects de ton travail, des fois, quand tu es ministre. Il y a des aspects où est-ce que ton cabinet te dit « Hey, ça, c'est correct, fais-toi-en pas, c'est pas grave. » Puis finalement, ça devient très grave. C'est pour ça que je vais me garder une gêne avant de voir le rapport. Maintenant, c'est sûr que si le blâme du rapport est littéralement qu'elle a menti et qu'il y a des preuves de ça, je m'attends à ce qu'il y ait des conséquences rapides. Mais sinon, de toute façon, je m'attends à ce que le prochain ou la prochaine chef de la CAQ prennent des décisions sur ces personnes qui ne vont pas se représenter. Ce n'est pas anodin que Geneviève Guilbeault ait décidé de ne pas revenir. Je pense que, oui, ce n'est pas nécessairement la décision. Elle dit qu'elle a décidé ça depuis longtemps. Il n'y a personne qui va me faire croire qu'un blâme d'une commission d'enquête ne vient pas confirmer un peu la décision que tu as pu prendre de quitter. De toute façon, tu n'aurais pas vraiment pu rester.
Victor Henriquez, c'est toujours un plaisir.
Merci. Bonne soirée.
Bye-bye. On est au Québec. Là, et Geneviève Guilbeault reste en place jusqu'à la fin. On ne peut pas y faire ça. Elle a tellement rendu service à la coalition Avenir Québec. Max, sur la route!
Toujours un peu de rouge pour l'accès aux pompiers à la porte direction nord. 40 Est entre Duplessis, Henri IV, des ralentissements. Capitale Ouest entre Beau-Royal et Laurentienne. Capitale Est, hauteur de Robert Bourassa. Henri IV Sud, ça c'est pas mal réglé. Reste un petit ralentissement hauteur Chauveau-Ouest. Et c'est pas mal tout l'heure de pointe qui aura assez bien été ce matin.
7h52 après la pause. Denis Gravel s'en vient pour le Pit Stop.
pour nous informer de ce qui se passe dans la